Bonjour à tous, c'est l'heure de Force 7, le magazine d'information régionale de Fréquence Mistral, proposé et présenté par François Malabave. Bonjour François.
Bonjour Olivier, bonjour à tous.
Au sommaire de ce magazine, journée mémorable à Monlo avec la remise du chèque de la mission Berne, mais aussi l'inauguration de la mairie et du bar-restaurant du village. Notre reportage pour Force 7. Le comité départemental handisport propose des formations et animations dans les Alpes de Haute-Provence. Le reportage d'Odile Frison dans un instant. La citadelle de Sisteron est dotée d'un beau pont-levis. Il s'abaisse pour accueillir les visiteurs. Chris Alessandri a interviewé le président d'ATM. Manosque, le grenier numérique déménage et occupe un local plus adapté à son développement. Reportage dans ce magazine. À Digne, Odile Frison a rencontré la société Ergo Santé qui propose des solutions ergonomiques aux personnes âgées ou en situation de handicap. Pendant 3 jours, fin juillet, les musiques à Manosque vont résonner à Drouille, avec cette année une programmation qui cible les jeunes. Monlo est fier de son passé. Et bien dans son présent.
Le petit village situé au pied de la montagne de Lure a vécu une journée mémorable. La maire de Monlo, Camille Feller, a accueilli de nombreux invités pour inaugurer sa nouvelle mairie et le bar-restaurant à proximité, mais également pour une visite guidée du site du Vieux Monlo. Là, grâce à des fonds publics français et européens et avec un coup de pouce du loto du patrimoine de Stéphane Bern, les vestiges sont sécurisés et valorisés. C'est dans ce cadre superbe que Bernard Bartolini, qui a pris le relais de la regrettée Marie-Françoise Brunel à la Fondation du patrimoine, a remis un chèque de 50 000 euros à Camille Feller. Cette dernière a guidé les présents, dont la préfète Desmarais et la sous-préfète Williams, ainsi que le sénateur Roux et plusieurs élus du territoire, à travers ce qui reste de l'église, du donjon et des rues et murs du vieux et haut village. Il fut édifié au Moyen-Âge par de courageux bâtisseurs sur un promontoire qui domine l'espace avec une vue à 360 degrés. Élu à la tête de la commune en 2016, Camille Feller s'est dépensé sans compter pour sauver ce qui restait du passé de Monlo. Recherche de partenariats, de subventions et d'entreprises ainsi que de bénévoles et souscripteurs avec l'aide précieuse de Patrick Claude qui préside l'association Au pied du mur. Elle a tenu bon et ce n'était pas si facile. La restauration du site continue, de même que l'afflux de dons de particuliers sensibles à la démarche et aux premiers résultats. Le deuxième temps fort de la journée fut l'inauguration de la nouvelle mairie, accessible et fonctionnelle. Elle est située à 2 pas du seul commerce du village, un bar-restaurant, ouvert depuis le 6 mai et géré par un couple nouvellement installé. Des logements sociaux complètent cet ensemble qui tourne Monlo vers un présent et un futur moderne et convivial. Un équipement public qui contribue à la vie d'une commune attachante. Je reviens avec la maire sur le renouveau engagé du Vieux Monlo et sur les nouveaux services dans son village. Puis vous entendrez la préfète Desmarais évoquer le soutien de l'État via notamment l'agenda rural en direction des petites communes. Camille Feller, vous êtes le maire de Monlo et c'est une journée historique aujourd'hui du passé, présent et le futur.
Tout à fait, c'est une journée historique aussi par la présence de Madame la Préfète, mais toutes ces inaugurations, c'est rare, effectivement. Il n'y a pas eu de préfet sur la commune depuis 2007 pour l'inauguration de la salle des fêtes. Et la salle des fêtes montre que la présence d'une salle peut changer le destin d'une commune. On a une salle magnifique où on peut recevoir 200 personnes et sans cette salle, plein de choses n'auraient pas pu avoir lieu. Et j'espère que ce qu'on est en train d'inaugurer aujourd'hui permettra la même chose, changer un peu la vie des gens de Monlo. En tout cas, c'était attendu pour le bistrot.
Il y a quelque chose qui a changé aussi, c'est le vieux Mont-Lot en haut, avec notamment l'apport de la mission Berne.
Ah oui, donc en haut, c'est un projet continu qui fédère un grand nombre de personnes bien au-delà de la commune. Et on a eu la grande chance d'avoir l'apport effectivement de la mission Berne, ce qui va nous permettre de pouvoir envisager une tranche beaucoup plus substantielle qu'on avait pu faire précédemment, parce qu'elle vient en déduction de l'autofinancement de la commune. On s'apprête à faire presque 300 000 euros de travaux, ce qui est énorme pour une petite commune et peu pour un site qui fait 1,5 hectare. Mais c'est une très grande joie d'avoir eu cette distinction.
Avec Patrick Claude et Bernard Bertolini, vous avez évidemment rendu hommage à Marie-Françoise Brunel.
Eh ben oui, son décès a été brutal. Elle était venue lors de notre sélection par Berne au mois de septembre. Je l'avais vue encore pour l'inauguration du Vierre à Ongles. Et malheureusement, j'étais à la cathédrale quand Madame la Préfète lui a rendu hommage. C'était vraiment tout à fait inattendu. C'est quelqu'un qui faisait beaucoup pour le patrimoine basalpin.
Pour le présent, Camille Feller, c'est l'inauguration de votre nouvelle mairie et qui est accessible.
Ben oui, on n'avait pas beaucoup d'autres solutions. Ça aurait été ni fait ni à faire si on avait voulu rester là-haut. Et c'était important de remettre aussi la mairie vraiment au cœur du village, que les gens ne puissent pas traverser Mont-Lot sans savoir où est la mairie. C'était quelque chose d'attendu et aussi un outil de travail qui soit plus fonctionnel, puisque en fait c'était juste l'ancienne école qui avait été transformée en mairie sans aucun travaux préalable. Donc on avait très très froid.
Avec à côté également, et vraiment à proximité, un bar, restaurant. Et ça aussi, c'est important pour la convivialité dans un village.
Ben oui, c'était plus de commerce à Mont-Lot depuis 1995. Donc effectivement, on peut dire que c'est un événement. C'est un événement. C'était un projet qui était ambitieux, parce que je vois quand je discute avec mes collègues que c'est pas facile de créer des commerces dans des villages même beaucoup plus gros que Mont-Lot. Et pour l'instant, on peut dire qu'on a la chance d'avoir trouvé des gérants qui ont compris pleinement leur mission, c'est-à-dire aussi être une vitrine pour les producteurs locaux, puisque vous savez qu'on a encore beaucoup d'éleveurs, et aussi créer de la convivialité. C'est ouvert depuis le 6, et depuis le 6, ça ne désemplit pas.
C'est une excellente chose. Vous avez été vous-même à la pêche aux subventions pour tous ces dossiers, mairie, vieux Mont-Lot et puis le bistrot.
Ah oui, je le dis tout à l'heure, il y a vraiment beaucoup de cofinanceurs, des financements multiples. On essaye toujours d'être financé au maximum puisqu'on n'a pas le choix. On a des recettes de fonctionnement qui sont très, très contraintes. Donc sans ces financeurs et sans réussir à convaincre en fait les financeurs que nos projets ont de l'intérêt, on ne ferait rien dans un village comme nous.
Parmi les financeurs, il y a bien sûr l'État. Violette Desmarais, vous êtes préfète des Alpes de Haute-Provence. Vous avez insisté sur l'agenda rural. Qui concerne Mont-Lot ?
Oui, j'ai insisté sur l'agenda rural parce que ça fait partie des plans qui sont faits typiquement pour des communes comme pour Mont-Lot. Mont-Lot, c'est une commune qui fait 200 habitants. Dans les Alpes de Haute-Provence, on a plus de la moitié de nos communes qui font moins de 200 habitants. Et donc, si on n'intervient pas, nous, État, avec d'autres partenaires, évidemment, pour aider les communes à concrétiser leurs projets, ça peut être de l'aide technique, administrative, ça peut être de l'aide financière. Les projets, comme vient de le dire Madame le maire, ne se font pas. Et donc, en l'occurrence, on a essayé d'être présent sur tous les projets. Le vieux Mont-Lot, vous l'avez indiqué tout à l'heure, il y a eu la mission Berne qui, grâce au loto du patrimoine, permet à ce projet de se concrétiser. Nous, État, avons versé 6 000 euros sur ce projet et on a surtout activé, à la demande de Madame le maire, qui m'en a saisi en décembre, une clause de suppression des 20% d'autofinancement que la commune doit normalement supporter à ma décision, parce que Madame le maire l'a réexpliqué, cette commune n'a pas beaucoup de richesses initiales, donc il faut qu'on l'aide. Et sur le gros projet qu'on vient d'inaugurer, à la fois la mairie, les logements et le bistrot de pays, l'État a mis plus de 200 000 euros avec un petit bonus parce qu'on crée de l'emploi. Donc on veut évidemment que l'emploi se crée dans toutes nos communes de France, nos communes les plus rurales. Et donc on a donné un petit peu plus d'argent pour ça. Et les bistrots de pays, oui, ça fait partie des mesures de l'agenda rural qui est encore assez méconnu dans les communes des habitants. Et qu'on cherche à mieux faire connaître pour que là aussi, il y ait des guichets qui existent, qui parfois ne sont pas saisis par les collectivités. Et c'est dommage, et donc à nous de mieux le faire connaître.
Vous avez passé un long moment ici même à Mont-Lot, aussi bien en hauteur qu'un petit peu plus bas. Et vous avez salué bien sûr le volontarisme de Camille Feller.
Oui, alors si on n'a pas d'élus aujourd'hui, d'abord qui sont engagés, qui ont envie de s'engager, qui dans des communes petites comme celle de Mont-Lot, mais petites au sens de la population, puisque je le rappelais tout à l'heure, il n'y a pas de petites communes. Par contre, il y a des communes qui ont besoin de plus d'aide que d'autres, et s'ils n'ont pas à leur tête un maire ou une maire qui est tenace, qui a des projets, qui essaie de les concrétiser, qui se bat pour ça, ben les communes n'arrivent pas à vivre, à avoir de dynamique. Et là, c'est ce qu'on vient voir aujourd'hui, on a une commune dynamique qui a des projets. Et donc l'État, les partenaires financiers peuvent mettre toutes les enveloppes disponibles qu'ils souhaitent souhaite, si on n'a pas des maires qui conçoivent et qui portent, bah, les communes n'évoluent plus et stagnent. Et ça, c'est le pire qu'on puisse trouver dans notre département comme dans les autres.
Handisport dans le 04, organisé et structuré.
Regroupant plusieurs clubs des Alpes de Haute-Provence, de Lubaye au Verdon et de Digne à Manosque, l'handisport permet la pratique de disciplines adaptées à bien des handicaps. Grâce à des actions et formations ciblées, il œuvre à la sensibilisation des valides. Alain Rocchetti présente le rôle et les différents clubs du comité départemental handisport. Il annonce également les interventions prévues en partenariat avec Cœur Lavande durant les journées Regards sur l'autisme et le handicap qui se déroulent à Digne du 21 mai au 4 juin 2022. Reportage Odile Frison.
Le comité départemental, c'est une entité qui est là pour développer et valoriser les clubs. Donc on a 5 clubs à l'heure actuelle qui s'occupent de personnes handicapées, de faire du sport. Donc il y a 2 clubs historiques. Le club historique, c'est Handicap Évasion, qui fait faire de la randonnée, de la géolette sur le département, qui est là depuis très longtemps. Et il n'y aurait rien de fait au niveau du sport et du handicap s'il n'y avait pas eu Handicap Évasion. Un autre club, un gros club, c'est le Cap Verdon sur toute la vallée du Verdon. Après, on a un club qui vient de se monter sur la vallée de Lubaye, qui est AMX. Association Montagne Expérience. On a le club de natation dignois. Il y a un club de plongée et du caplonge qui va s'affilier de Digne. Enfin, on a 5 clubs et un 6e qui va s'affilier, donc et du caplonge. Et le club d'escrime des mets qui va s'affilier. Et voilà, donc nous, on est là pour valoriser, développer, aider les clubs qui sont affiliés. Mais surtout, chercher d'autres clubs, des clubs valides, leur proposer d'ouvrir leur pratique pour les personnes en situation de handicap, pour ouvrir l'offre de sport pour les personnes en situation de handicap physique, sensoriel.
Est-ce qu'il faut que ces personnes qui tiennent ces clubs soient formées au handicap, quel qu'il soit ?
Alors, en général, donc, nous, on propose par la Fédération Handisport. Sinon, il y a des formations, mais il y a des formations par les CREPS, il y a des systèmes en France. Il faut qu'effectivement, les éducateurs sportifs soient formés, ce qu'on appelle APA, activité physique adaptée, pour le handicap. Voilà.
Donc, le comité organise aussi des événements tout au long de l'année ?
Alors, on participe à soutenir nos clubs donc dans des journées qui sont propres aux clubs et on a des journées départementales où, du coup, là, c'est l'inverse. C'est les clubs qui viennent nous aider avec les bénévoles, le matériel, etc. On a des journées départementales de la Joëlette, des journées départementales Neige pour tous, une journée où on fait sur la vallée de Lubaye, où on fait toutes les activités ski nordique, donc du biathlon, de la raquette, pour les gens en fauteuil, ben, de la luge nordique, de la poulka, enfin voilà. On a des journées départementales plongées. Ça, c'est en accord avec le comité départemental plongée, donc Indisub. Il y a des journées départementales fauteuil tout-terrain de descente, Simgo, c'est des fauteuils pour descendre, et fauteuil tout-terrain électrique, voilà.
Est-ce qu'il y a des âges aussi pour les clubs ? Enfin, il y a des clubs adultes handicapés, enfants. Est-ce qu'on retrouve tous les sports, quel que soit l'âge qu'on a ?
Alors, on peut au niveau national. Après, au niveau départemental, non. Après, l'âge, c'est en fonction de l'accueil dans les clubs. Il y a des clubs qui accueillent des enfants, d'autres non. Des clubs handicap évasion, il y a des jeunes. Pas forcément des tout jeunes, mais il y a des jeunes et puis jusqu'aux personnes âgées. Enfin voilà, c'est en fonction des clubs. Après, les sports, oui, on essaye de trouver... On a pris contact avec le club de basket de Digne. Donc peut-être qu'un jour, ils vont s'ouvrir. On va faire ensemble des journées. Peut-être qu'un jour, ils s'ouvriront à devenir une affiliée à la Fédération Handisport. Donc, ils gardent toujours leur entité, basket. Et puis, de l'autre côté, Handisport. Et voilà, on est là pour soutenir. Peut-être le club d'escrime de Digne, on cherche des clubs de VTT, vélo. On a besoin d'accompagner nos personnes handicapées dans des handbikes. Et là, il faut qu'il y ait des gens en VTT qui les accompagnent. Donc, on essaye de rechercher sur tout le département des clubs qui veulent s'ouvrir au handicap. Voilà.
Parce que est-ce qu'on peut imaginer que dans un club de basket, par exemple, on puisse mélanger des personnes en fauteuil pour un match avec des personnes sur l'heure du pied ?
Complètement. Dans le handisport, il y a une possibilité, c'est de pratiquer avec un nombre de valides dans l'équipe, donc le même nombre de chaque équipe, dans chaque équipe, et un nombre de personnes handicapées. Donc effectivement, l'intérêt, ils veulent ça aussi, les personnes en situation de handicap ont envie de pratiquer avec des valides. Et nous, pratiquer avec eux, c'est plaisant, on apprend plein de choses, voilà. Oui, bien sûr.
Là, dans l'événement, vous allez proposer
Est-ce qu'il y a un rendez-vous particulier?
Alors là, dans l'événement, on a la journée inaugurale où il y a un partenariat avec le comité départemental plongée et le comité handisport où on fait handisub. C'est, on fait des baptêmes de plongée dans la piscine. Il y a le club de natation d'Innois qui a une section handisport qui va faire des activités natation handisport. Il y a l'UCPA qui gère la piscine de Digne, qui est délégataire, qui va faire des activités handisport, enfin mettre les personnes en situation de handicap dans l'eau. Voilà, ça c'est la première journée. Après, il y a lors du trail autissime, on va mettre 4 joëlettes disponibles pour les personnes en situation de handicap. Alors ça sera plus une randonnée qu'un trail vraiment, mais voilà. Et ensuite, on aura une journée handisport sur la place générale de Gaulle où on fera pratiquer du torball, dans un sport pour les non-voyants, de la pétanque pour les non-voyants et peut-être du basket fauteuil, on va voir en fonction de la place qu'on a.
On a du mal à imaginer de la pétanque pour non-voyants par exemple.
Oui, mais par contre on travaille beaucoup avec les écoles, les collèges et c'est quelque chose qui accroche bien les jeunes parce que justement en ayant un sens en moins, on développe les autres sens et on fait attention, on augmente la concentration et du coup on voit qu'on arrive à aller tout près du cochonnet, du but, droit au but.
Sisteron, le pont-levis s'abaisse pour les visiteurs de la citadelle.
Depuis le mois de mars, les visiteurs sont nombreux à arpenter les circuits sonorisés de la citadelle de Sisteron. Ils mènent des bastions au chemin de ronde en passant par les guérites au surplomb vertigineux et le majestueux donjon. Cette année, les visiteurs ont le plaisir de découvrir le pont-levis à zigzag, restauré à l'identique de l'original et en état de fonctionner. Une entrée dans un univers authentique où le promontoire de la citadelle permet également de profiter d'une vue saisissante sur les alentours. C'est dans ce cadre que se déroulent chaque année les fameuses nuits de la citadelle, un rendez-vous qui en 2022 est fixé du 22 juillet au 13 août. 7 représentations seront proposées, dont les Italiens de l'Opéra de Paris le 29 juillet. Président de l'association ATM, Art, Théâtre, Monument, dont la double activité est la restauration et la mise en valeur de la citadelle de Sisteron, Jean-Louis Ray répond aux questions de Chris Alessandri.
Jean-Louis Ray, deux petits mots de présentation sur ATM. C'est une structure, je dirais, qui traverse le temps.
Bien sûr, c'est une structure qui est là depuis plus de 60 ans. Et vous voyez bien qu'au niveau du festival, on en est aux 67e nuit. Donc c'est une structure qui est là très ancienne. Il y a eu deux présidents. Le premier qui a construit ATM. Et puis, à partir de 98, vous avez une nouvelle présidente qui était Madame Edith Robert, qui est malheureusement est décédée l'année dernière. Voilà pourquoi on a renouvelé l'équipe, on a changé l'équipe et je suis maintenant président pour quelques années peut-être.
Pour parler simplement un tout petit peu de l'objectif peut-être que vous avez en point de mire sur les spectacles, sur les activités en elles-mêmes qui puissent être représentatives de ATM. Qu'est-ce que vous pourriez en dire?
Ben que la nouvelle équipe poursuit ce qui était déjà fait, ce qui était en cours. Donc on continue à avoir notre festival qui sera là toutes les années sur le même nombre de spectacles avec les mêmes danses, théâtres, musique. Et au niveau de la citadelle, au niveau de la municipalité jusqu'en 2026, donc nous poursuivons nos projets et nous avons un immense projet qui est de refaire la médiation totale de la citadelle. Quand je parle de médiation, bien sûr c'est un mot que tout le monde n'entend pas. C'est la communication au niveau de la citadelle. En fait, la rendre un peu plus sexy pour la visite. Voilà.
Vous avez pris des fonctions assez récemment. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'équipe qui vous entoure, de l'esprit même qui caractérise cette équipe et puis peut-être également de ce que vous apportez à présent à ATM?
Ben, de ce que j'apporte, c'est trop récent, donc on le verra au fur et à mesure. En tout cas, je peux vous dire qu'il y a une nouvelle équipe, que cette nouvelle équipe est vraiment motivée et qu'on poursuivra le chemin d'ATM. Il est hors de question de laisser tomber une perle pareille au niveau de Sisteron. J'espère que sur le futur, on démontrera tout le dynamisme, le mien bien sûr, mais celui de toute l'équipe derrière moi. Et on essaiera de renouveler ATM et faire en sorte qu'ATM produise les mêmes festivals, le même bonheur aux Sisteronais et présente encore la citadelle de mieux en mieux avec une visite de plus en plus agréable.
Alors, ce qui est bien sûr très représentatif, vous l'avez dit, hein, de ATM, c'est la citadelle. Cette citadelle, elle est visible, on peut la visiter.
Bien sûr, la citadelle est ouverte et comme toutes les années, d'ailleurs, la citadelle ouvre le 21 mars et le ferme le 11 novembre. Ce sont des dates figées, sauf à avoir un week-end au milieu et à deux jours près quand on ouvre différemment. La citadelle, cette année, il y a une nouveauté, c'est-à-dire qu'il y a un pont-levis qui a été reconstruit à l'identique comme il était dans les années 1850, qui est opérationnel et pour le quel pont-levis, on fera des démonstrations le week-end, lors des fêtes particulières. On vous le fera savoir par la presse et les gens pourront venir voir. C'est une véritable merveille.
Dès qu'on rentre, dès qu'on franchit ce pont-levis, qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur? Parce que ça reste quand même très mystérieux pour les personnes qui la voient de loin et qui ne font que passer du côté de la porte du Dauphiné.
La citadelle, il y a un immense circuit, parce que la citadelle, contrairement à ce que peuvent imaginer les gens qui ne la connaissent pas, c'est pas seulement la partie sud, il y a une partie nord qui est très intéressante, très agrémentée, parce que il y a une poudrière qui était une poudrière qui a été faite sur les plans de Vauban. Il y a un circuit avec un escalier souterrain, donc il y a vraiment, pour toutes les personnes, il y a de quoi voir au niveau de la citadelle. Ça peut intéresser tous les spécialistes de l'art militaire, mais aussi toutes les familles, parce qu'on est en plein air, parce qu'il y a de superbes vues sur les montagnes, sur Sisteron. C'est vraiment un moment très agréable, il faut que tout le monde puisse profiter de cette visite-là. Il y a également le cachot de Casimir. Il y a sur 3 ou 4 hectares de visite, vous voyez, il y a de quoi intéresser tout le monde. Et une vue panoramique, on l'avait dit tout à l'heure, mais une vue panoramique sur le nord, sur les écrins, sur le dévolu extraordinaire.
Sur les actions que vous allez mener avec ATM, est-ce qu'on peut en parler d'un côté chronologique peut-être et l'esprit également que vous allez amener dans ces rencontres compte tenu d'un contexte dont nous sortons et qui a été quand même très difficile?
Le contexte effectivement était très difficile. On a vécu 2 années mais insupportables pour la première, l'année 2020, un peu mieux pour la seconde qui malheureusement on n'a pas pu avoir la totalité de l'année d'ouverture. Et donc au niveau clientèle bien sûr qu'il y a une défection. Et puis aujourd'hui nous espérons que les mesures sanitaires ne nous empêchent pas d'avoir toutes les visites pour que les gens puissent venir le voir. Ce qu'on compte faire à l'avenir, c'est modifier un peu l'esprit de la visite dans la citadelle, c'est-à-dire renouveler un peu, peut-être essayer d'apporter un peu de modernité, parce que Casimir est là depuis bien longtemps, il s'ennuie un peu et il est un peu vieillot maintenant. Voilà. Donc il va falloir qu'on apporte un peu de modernité. On veut aussi, puisque chacun a un portable aujourd'hui, faire des visites où on puisse télécharger des informations, télécharger les divers circuits. On va modifier les circuits, on va faire des circuits qui seront plus adaptés aux personnes qui ont peu de mal à, physiquement à aller jusqu'en haut de la citadelle, à en faire le tour complet. Donc voyez, on a de grands projets sur les années qui nous restent, voire après. On a de grands projets de modification et de modernisation dans notre visite.
Un événement que vous attendez, vous mettez tout en place, vous axez vos efforts également sur le festival.
Bien évidemment, le festival c'est un incontournable cisteronné. Les Nuits de la Citadelle sont connues dans la France entière, voire au-delà, puisqu'on a pas mal de clientèle étrangère qui vient spécifiquement l'été presque pour notre festival. Donc après le décès d'Edith Robert, assurer une programmation d'exception, on n'avait plus les compétences en interne. Donc on s'est attaché les services d'un directeur artistique, Monsieur Pierre François Euclin, qui travaille aussi sur le festival de Gordes et sur le festival de Vaison-la-Romaine. Il a accepté de travailler avec nous et dans la lignée de ce que faisait Edith, on a cette année concocté un festival également de façon dans l'excellence, qui jouera dans l'excellence. On reste à ce niveau et on compte bien rester à ce niveau. Le festival aura lieu du 22 juillet au 13 août, comme toutes les années à peu près, hein, c'est tout ça. Et on aura la palette de ce qu'on avait toutes les autres années, c'est-à-dire de la danse, du théâtre et de la musique. Ce sera à la citadelle et ce sera au cloître. Et cette année, pour l'été, parce que les spectacles, c'est un peu trop compliqué, il n'y aura pas de cathédrale. Mais il y aura une cathédrale, puisque maintenant ATM, vous le savez, depuis 2-3 ans, organise un spectacle de fin d'année autour de la Noël. Et autour de la Noël, il y aura un spectacle dans la cathédrale.
Manosque, le grenier numérique, déménage et s'agrandit.
Il a quitté l'impasse des greniers, mais a conservé son joli nom. Cet atelier numérique très spécial a été créé il y a 4 ans et depuis, son succès ne se dément pas. Ses animateurs, Gomme et Aurélie, accueillent toute personne victime d'électronisme, mot barbare mais qui revêt la réalité de bien des Français. Être éloigné de la connaissance et la maîtrise de la chose numérique à l'heure où celle-ci s'immisce de plus en plus dans nos vies. Remplir un document officiel, réserver un séjour, conserver des documents ou photos, tout cela est possible pour qui a accès à du matériel et des compétences. C'est là que les accueils et ateliers du grenier numérique prennent tout leur sens, sous les regards protecteurs d'Albert Einstein et de Nelson Mandela. Durant l'inauguration des nouveaux locaux, plusieurs utilisateurs ont salué la bienveillance et la patience des médiateurs à leur endroit, ainsi que les disponibilités des matériels informatiques et Internet. Rue Arthur Robert, c'est un vrai pôle numérique qui est créé avec, outre le grenier, les Petits Débrouillards et l'association des internautes de Manosque et environ. Entouré de plusieurs de ses élus, le maire de Manosque, Camille Galtier, n'a pas manqué de le souligner. Je vous propose d'écouter une de ses adjointes, Jocelyne Coste, qui pilote l'opération via le CCAS, Centre Communal d'Action Sociale, et nous entendrons aussi Gomme CVD, qui depuis le début anime cet atelier avec brio. Jocelyne Coste, adjointe aux affaires sociales, le grenier numérique a déménagé.
Effectivement, les locaux de l'ancien grenier devenaient trop petits pour la fréquentation que nous observons dans le grenier numérique.
Donc 3 fois plus de place ici rue Arthur Robert et aussi 3 fois plus de personnes qui viennent depuis déjà 4 ans.
À peu près 125 personnes passent régulièrement toutes les semaines et on compte environ 200 à 250 personnes qui passent sur l'année.
Les besoins de ces personnes, justement ?
Ah, les besoins, ils sont divers. D'abord, il y a le manque de compétences, qui est évident. Et puis, tout passe par Internet, ou presque tout aujourd'hui. Les démarches administratives, les rendez-vous médicaux, consulter ses relevés bancaires, communiquer avec ses proches, postuler aux emplois. Enfin, presque tout passe par l'informatique.
On pense notamment aux personnes âgées, c'est la cible privilégiée ?
Entre autres. Parce que très souvent, il y en a qui ne font pas les démarches en ligne par manque de connaissances ou par manque de matériel informatique aussi.
Donc on trouve du matériel ici et on trouve également des animateurs très compétents.
Nous avons 2 médiateurs qui s'occupent activement des bénéficiaires qui passent au grenier. Et puis, dans l'espace du grenier numérique, on peut aussi bénéficier du Wi-Fi gratuit qui est mis en place par la municipalité, donc on peut se connecter gratuitement.
Il y a aussi un voisin intéressant, ce sont les Petits Débrouillards qui sont juste au-dessus.
Ça complète parfaitement tout ce pôle de l'informatique senior et plus jeune.
C'est un choix de la ville que de développer ces services auprès de la population et notamment des populations un petit peu éloignées par rapport au numérique.
C'est un choix absolu de la municipalité. Et nous avons un programme pour l'année à venir qui va être mis en place et qui sera encore plus complet.
Plus largement, c'est le CCAS également qui pilote cette opération.
Oui, le CCAS est présent sur des tas de points, notamment pour les seniors, les populations les plus démunies. Et le grenier numérique, c'est un projet phare du CCAS.
L'ouverture et les conditions d'inscription, voire de gratuité, c'est important.
Oui, c'est très important. Par exemple, tout ce qui a été distribution de matériel informatique, c'est-à-dire ordinateur et tablette, ça représente à peu près 150. Ça a été fait sous condition de ressources, bien sûr. Et nous avons aussi quelqu'un qui remet en service des ordinateurs un peu désuets. Et ça nous permet d'augmenter l'offre pour les personnes.
Vous avez eu des partenariats sur le grenier numérique ?
Oui, nous avons eu beaucoup de partenariats. En premier, je remercie Monsieur le maire qui met à notre disposition le local et tout le matériel informatique. Ensuite, l'État via l'Agence nationale pour la cohésion des territoires qui finance une partie des postes de médiateurs. Le Fonds social européen qui a financé l'opération de dons de matériel. Également la DLVA via le contrat de ville pour les actions qui se déroulent dans les quartiers prioritaires. Et la CARSAT pour les ateliers seniors.
Comme vous êtes animateur au grenier numérique, 4 ans déjà au grenier numérique, quels sont les services que vous proposez ici même ?
Les services que nous proposons, tout part depuis le savoir des gens sur les outils numériques de manière générale, les ordinateurs, les téléphones portables et les tablettes. Dans un premier temps, on essaie de rassurer les gens parce que la plupart qui viennent ici n'ont jamais ou pratiquement pas touché à des outils informatiques. Dans un premier temps, on découvre le matériel. Après, on voit le fonctionnement du matériel, c'est-à-dire les systèmes d'exploitation. Et à l'intérieur, on finit par voir comment ranger ses dossiers, comment ranger ses fichiers et ainsi de suite. Les créer aussi, évidemment. Tout en ayant en point de mire les démarches administratives. Parce qu'il ne faut pas oublier que si aujourd'hui le grenier existe, c'est pour justement permettre aux gens d'être autonomes, je dirais pas à fond, mais vraiment de manière standard à minima. Savoir faire les déclarations en ligne, savoir faire des mails, répondre à des mails, voilà, quelle que soit l'orientation, s'approprier, si vous voulez, ces outils-là.
Ça vous arrive également d'aiguiller des personnes vers d'autres services, d'autres sociétés ?
Ce qui est intéressant, c'est que nous avons des partenaires. Selon le niveau, je veux dire, de nos apprenants, eh bien, systématiquement, par rapport à leurs besoins, ceux qui veulent aller beaucoup plus loin, sont orientés systématiquement vers nos partenaires pour développer ou pour apprendre davantage, si vous voulez, à se servir de ces outils-là. Donc, ça peut dépendre aussi des corps de métier, ça peut dépendre aussi de nos activités de manière générale.
Vous vous sentez plus à l'aise ici même avec trois salles plutôt qu'une ?
Oh là là, on peut dire que le bébé a grandi, le berceau était tout petit et aujourd'hui il est à la taille et à la dimension, je veux dire, de son âge. Eh bien, on ne peut que s'en réjouir.
ErgoSanté est un créateur pour des solutions ergonomiques.
À Digne-les-Bains, ErgoSanté proposera le 25 juin une animation de prévention pour les journées Regards sur l'autisme et le handicap. Cette société emploie des personnes handicapées qui connaissent les problèmes d'adaptation et servent au mieux ses objectifs. Créée grâce à l'ergonomie des outils et pratiques adaptées pour permettre de pratiquer une activité ou un métier, ou bien encore accompagner le vieillissement. Partenaire de l'association Cœur Lavande, Yann Subugjian est au micro d'Odile Frison.
Je m'appelle Yann Subugjian, je travaille donc pour la société ErgoSanté. Alors ErgoSanté est une entreprise adaptée, la seule de France à fabriquer et concevoir des solutions ergonomiques.
Alors vous êtes présent pour ces journées de l'autisme et du handicap. C'est important pour vous d'être partenaire de ces manifestations ?
Alors tout à fait, parce que en fait ça fait vraiment partie de notre philosophie aussi d'entreprise, puisqu'en tant qu'entreprise adaptée, nous avons plus de 80% de nos salariés qui sont donc travailleurs handicapés. Et notre métier, c'est d'apporter donc des solutions pour pouvoir permettre à l'être humain aussi de le préserver. Alors notre métier, c'est pas de l'augmenter, hein, c'est vraiment de le préserver et de lui permettre de vieillir en bonne santé. Et dans le cas où une pathologie est déjà identifiée ou un handicap, eh bien notre rôle, c'est de leur permettre de travailler, de conserver ou de conserver leur emploi dans de bonnes conditions avec des solutions adaptées et sur mesure.
ErgoSanté existe et est basé où et ça existe depuis combien de temps ?
Alors, ErgoSanté a été créé il y a 13 ans à Anduze. C'est parti d'un projet qui était en fait qui a été lié à un accident de vie du créateur Monsieur Corgne, qui a eu un accident et qui s'est dit mais je vais faire quelque chose, et donc on a commencé à fabriquer des fauteuils, à travailler en local. Aujourd'hui, on existe dans toute la France, dans une partie de l'Europe et depuis quelques semaines aux États-Unis avec nos dispositifs d'assistance physique. Donc c'est un beau projet, on est tous ultra concernés par la volonté de faire évoluer cette machine et de passer des messages et surtout d'apporter des solutions aux personnes qu'on a le plus besoin en premier, et surtout aussi de travailler sur la prévention pour dire on peut éviter certaines situations, quoi.
Vous serez présent pour faire des démonstrations comme vous venez de le faire ce soir, des démonstrations d'outils pour se préserver ?
Voilà, tout à fait. Alors, nous serons donc présents au Palais des Congrès le 25 et aussi sur le reste de l'événement, mais surtout le 25 pour présenter nos solutions et ce que l'on fait d'ailleurs dans toute la France, voilà, depuis maintenant 13 ans. Voilà.
Et qui vient acheter ce matériel? Est-ce que c'est les entreprises pour sauvegarder leurs employés ou comment ça se passe?
Alors, la première partie, ça va être le milieu curatif. Pour le curatif, donc déjà une pathologie existante. Donc là, les organismes tels que le Cap Emploi ou les médecines du travail ou les ergonomes ou ergothérapeutes de la médecine du travail vont donc se rapprocher de nous. Et à partir de ce moment-là, sur des prescriptions, nous allons adapter le matériel en fonction de la pathologie, en mettant du matériel à l'essai, de façon que le bénéficiaire puisse ressentir vraiment les bénéfices. Dans le cas où ce n'est pas le cas, à partir de ce moment-là, nous allons adapter jusqu'à la situation adéquate et idéale pour le bénéficiaire. Et sinon, aussi des entreprises, ça peut être aussi des municipalités qui vont se rapprocher de nous pour pouvoir faire de la prévention, pour pouvoir avoir des aménagements de postes, que ce soit des bureaux à hauteur variable, des fauteuils, des souris, mais adaptés justement pour limiter les troubles musculo-squelettiques, les TMS, ou aussi les risques psychosociaux avec des solutions qui absorbent le son, par exemple. Tout ce que l'ergonomie apporte, que l'on retrouve d'ailleurs dans le Code du Travail, qui est une science holistique, donc une vision globale aussi du bien-être dans l'entreprise.
Oui, j'ai découvert récemment une souris ergonomique, je ne savais pas que ça existait et qu'on pouvait risquer de se faire mal en manipulant la souris de son ordinateur.
Tout à fait. En fait, une chose toute simple, la souris que tout le monde connaît n'est pas une position naturelle. Et donc, en règle générale, sur de la prévention, nous allons travailler sur des souris donc verticales qui vont nous permettre certaines inclinaisons de la main qui peuvent provoquer au fil du temps des problèmes du canal carpien, que vous pouvez connaître, j'imagine, et aussi des problèmes de cervicales, puisque il faut savoir que, par exemple, votre pouce est lié et peut avoir un impact direct, par exemple, sur votre cervicale, la C4, voilà, donc qui peut créer de vrais problèmes sur vos cervicales et après qui peuvent venir jusqu'à vos épaules. Donc voilà, enfin ça, c'est une petite information au passage, mais il y a pas de choses anodines sur le corps humain. Tout est précieux, comme l'homme.
Le festival Musique à Manosque cible la jeunesse.
Fan de beatbox, électro, vocodeur et autres autotunes, ce festival gratuit est pour vous. Du 23 au 25 juillet, le parc de Drouille va vibrer à la pop urbaine avec des artistes confirmés ou émergents de la scène actuelle. Ronisia, 47 Terre, Chilia, Franglish, MB14 ou Offenbach vont se succéder pour des soirées forcément rythmées où les 15-30 ans sont clairement ciblés. Limité à 5000 personnes, le lieu est en accès gratuit, mais il faut réserver dès le 1er juin afin de respecter la jauge du parc. Rien de plus simple pour cela, un QR code est visible sur tous les supports à cet effet. L'organisation garde cependant 300 places disponibles à l'entrée du parc pour les retardataires à chaque soirée. Ouverture des portes à 20h pour profiter de la buvette et trouver sa place, puis les deux concerts à 21h et 22h30. À noter que Durance-Luberon-Verdon Agglomération tiendra un stand de sensibilisation au tri sélectif juste à côté de la restauration. Le président de l'agglomération, Jean-Christophe Pétrini, évoque ce temps fort de l'été manosquin. Jean-Christophe Pétrini, avant de parler du festival Musique à Manosque, vous avez regretté l'absence de la thématique culture durant les dernières élections présidentielles.
Oui, en effet, j'ai été très 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 surpris et un peu énervé que la culture ne soit pas au cœur des débats de l'élection présidentielle. Malheureusement, c'est souvent une laissée pour compte lorsqu'il y a des grands débats nationaux. Bon, il y avait des thématiques à aborder, certes, mais je pense que la culture avait également sa place dans le débat des présidentielles.
Alors cette opération de Musique à Manosque, c'est une opération traditionnelle ici à Manosque, et il y a évidemment un adjectif très important, c'est gratuit.
Oui, alors on conserve la gratuité, je l'ai précisé dans mon intervention. On conserve également toute la programmation du spectacle vivant, hein, malgré ce qui a pu être dit et entendu, dit par certains et entendu par la population. Voilà, l'agglomération reste sur sa programmation du spectacle vivant. On va cette année, pour Musique à Manosque notamment, revenir à un festival classique, hein, en espérant que le Covid nous laisse tranquille. Et avec, vous l'avez vu, la qualité de la programmation, qui est beaucoup plus ciblée cette année pour une tranche d'âge entre 15 et 30 ans.
Pourquoi avoir ciblé sur cette tranche d'âge ?
Parce qu'on s'est aperçu que finalement, cette génération-là a été quand même la plus impactée au niveau du Covid. Et qu'il mérite, les autres aussi, mais qu'elle mérite, à mon avis, un peu plus d'attention en matière de programmation de spectacles vivants. Et c'est la raison pour laquelle, avec Sandra Faure, avec Claire Zara, notre directrice à la culture, et Philippe Parzi, notre programmateur, on a voulu cibler les spectacles en direction de cette génération-là.
Avec des artistes qui sont des artistes émergents, mais aussi confirmés, et qu'on voit régulièrement sur les écrans.
Oui, on a la chance, je l'ai dit tout à l'heure, hein, d'avoir un programmateur qui arrive à capter des artistes qui émergent. Et quand ils arrivent à Manosque, ils ont cette notoriété déjà importante, ce qui fait l'attrait aussi de ce festival.
Vous attendez en moyenne chaque soirée au Parc de Drouille environ 5000 personnes, avec aussi une jauge mouvante pour les personnes qui arriveraient en retard. Ça, c'est une nouveauté.
Avec le Covid, on a été obligé de mettre en place une billetterie, malgré que le festival reste gratuit. On a voulu conserver cette billetterie, ce qui nous permet un petit peu de jauger le nombre de personnes qui vont arriver sur le site, et en se gardant une marge de manœuvre pour celles et ceux qui n'ont pas encore enregistré le fait qu'il fallait passer par une billetterie. Et ça nous permet surtout de jauger et de ne pas laisser à la porte, si l'affluence est importante, des personnes qui n'auraient pas pris leur billet.
Et c'est un nombre important, il y a 300 places disponibles éventuellement à l'entrée.
Tout à fait, c'est exactement ça.
Jean-Christophe Petrini, il y a aussi toute une dynamique à côté avec des sociétés privées qui viennent vous aider pour cette programmation et pour l'accueillir le public, et notamment aussi le comité sportif manosquin qui gérera une partie très importante, c'est la buvette.
Oui, alors cette opération avait déjà été mise en place auparavant. On l'avait arrêtée en 2020-2021 par rapport au Covid. Bon voilà, là ça reprend, la buvette. Le collectif sportif manosquin, justement, nous aide à tenir cette buvette-là, et en contrepartie, ils récupèrent les bénéfices de leur vente.
Et il y a également un stand d'information sur la gestion des déchets.
Oui, on a voulu verdir le festival. On a une politique très entreprenante au niveau des déchets. Et il y aura des agents des LVA qui vont à nouveau, puisque la tranche d'âge en plus 15-30 ans est très friande de ça, on va essayer d'associer le festival à la pédagogie du tri. Et ça sera un plus pour cette année, pour les années à venir.
Avec la présence de l'ambassadrice de tri.
Tout à fait, notre ambassadrice de tri, Camille, qui sera présente et qui va diffuser toutes ces informations que les jeunes aussi attendent. Et c'est à eux qu'on doit justement mettre en place cette programmation-là, puisque c'est eux qui éduquent après leurs parents et leurs grands-parents.
C'est la fin de ce magazine. Merci François.
Merci à vous Olivier pour la régie et à bientôt.